Église en Mayenne.
Bienvenue dans votre émission Église en Mayenne. Aujourd'hui, dans nos studios à Laval, malgré le confinement, nous avons la chance de pouvoir continuer avec les masques. Mais ça ne nous empêche pas de parler des belles choses et d'autant plus qu'aujourd'hui, nous allons poursuivre notre visite de la bibliothèque diocésaine et vous allez découvrir des belles choses parce que nous allons parler aujourd'hui des deux ateliers qui sont proposés depuis déjà un certain temps à cette même bibliothèque qui sont animés par Michel Gigant qui est là. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous, c'est des ateliers haïku qu'on va découvrir par la suite. Et Nicole Villerue. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Qui anime des rencontres autour d'un auteur, donc la littérature. Commençons par Michel.
Alors, un haïku, c'est un petit poème japonais, court, qui a été, diffusé par les moines errants au XVIIe siècle au Japon. On attribue la paternité du haïku à Matsuo Basho, qui est un auteur de cette époque. Ce genre de poème a été introduit ensuite en France au XXe siècle, au tout début du XXe siècle, par Paul-Louis Couchou, qui était un philosophe et médecin, qui avait voyagé au Japon, et qui a diffusé, lui, à son tour, en France, et qui a créé ce qu'on appelle des aijin, un aijin qui est un groupe de personnes, de poètes qui font des haïkus. Et là, il y a eu des jeunes étudiants qui sont rentrés dans ce groupe, notamment Julien Vaucance. Et Julien Vaucance, ensuite, malheureusement, il a été appelé sous les drapeaux, plus que les drapeaux, puisque c'était la guerre, la Première Guerre mondiale. Et dans les tranchées, tous ces jeunes qui vivaient une tragédie, et dans les temps plus calme, faisait des haïkus et c'est arrivé comme ça en France.
Et ça consiste en quoi exactement? Comment est-ce qu'on doit s'imaginer un haïku?
Alors, c'est un poème très court de 3 vers et de 17 syllabes, 5, 7, 5, qui généralement est en rapport avec la nature et qui demande quand même à ce qu'on soit dans un état de réception, un état d'écoute ou d'observation par rapport à la nature. Par exemple, quand on se promène, on va découvrir des petits animaux, des végétaux. Et là, on va entendre. Nos 5 sens vont être en éveil. Et c'est souvent plutôt l'ouïe et la vue qui est sollicitée et qui ressort dans les haïkus.
Est-ce que vous avez un exemple d'un haïku?
Un exemple d'haïku avec la vue, oui, je pense. Voilà, c'est du maître Basho. Pétale après pétale, tombent les roses jaunes, le bruit du torrent. Donc c'est ce maître japonais qui a écrit ça. Alors, il nous dit Basho, le haïku, c'est simplement ce qui arrive à tel lieu, à tel moment. En fait, il exprime l'instant présent. Il est par essence plus qu'un poème. Sa pratique, par la lecture et l'écriture souvent plus tard, devient un exercice spirituel.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu avec vos propres mots comment vous voyez ça, vous, comme un exercice spirituel? Est-ce que déjà vous écrivez vous-même des haïkus dans ces ateliers? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Comment se déroule un atelier à la bibliothèque?
Oui.
Alors, on se réunit tous les deuxièmes jeudis du mois, de 10h à 12h, de 10h30 pardon, à 12h. Généralement, on a défini un thème. Et par exemple, là, pour l'automne, les Japonais ont des mots de saison. Ils ont un mot de saison qui est la lune. Mmh. On a travaillé il y a quelques années sur ce thème. Et ce mot, on l'appelle le mot kigo, le kigo. Et là, on va préparer, chacun d'entre nous va préparer un ou deux petits poèmes et va arriver avec à l'atelier. Alors, notre atelier, on commence toujours par un haïku de bienvenue, si je peux dire, qui colle à la saison ou à un événement. Ensuite, on parle un peu technique parce qu'il y a des règles dans le haïku.
Oui, apparemment, des règles assez concrètes.
Oui,
assez
alors, bon, on fait, disons, un peu de théorie pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après, chacun d'entre nous lit son haïku, s'il le souhaite, bien entendu. Hein. Et là, on va l'écrire au tableau. Et après, on reprend on est une dizaine en général, les haïkus qui ont été écrits, et avec beaucoup de bienveillance, parce que ça se passe comme ça depuis le début. Eh bien, on suggère, on revoit chacun de nos haïkus dans le groupe. Mmh. Et là, ça nous permet énormément de progresser. Mmh. Et depuis qu'on a adopté cette méthode, on a fait franchement, je crois, des progrès.
Des progrès dans quel sens? Qu'est-ce qui s'est amélioré?
Eh bien, je vais vous donner par exemple, moi, un exemple, un haïku que j'ai fait cet été dans ce contexte particulier. Je suis allée à un concert dans une église normande. Alors, c'est une église normande, Bach, le quatuor et nous, retrouvailles, point d'exclamation. Et si vous voulez, si je le présente, par exemple, ce mot retrouvailles, bon, peut-être que quelqu'un va me trouver quelque chose de meilleur. On va échanger entre nous. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Trouver le mot qui colle peut-être encore mieux.
Et à nous tous, on se concerne, voilà, on dit ce qu'on a à dire en toute simplicité et bienveillance, comme je le disais tout à l'heure. Mm-hmm. Et puis après, on a quand même un temps d'échange qui fait peut-être une petite heure. On arrive à la fin de nos ateliers et on repropose. Le mot pour l'atelier suivant. Mmh. Voilà.
Ça demande beaucoup de confiance et d'humilité aussi, non?
Ah oui, tout à fait. Mais je crois que ça vient aussi du fait que la plupart d'entre nous avons déjà commencé il y a 4 ans. D'autres personnes arrivent et c'est heureux. Des personnes souvent plus jeunes aussi, et c'est bien. Et bien voilà, elles s'intègrent petit à petit.
Vous êtes combien, en fait, dans un atelier ou...
On est en général entre 8 et 12. Et c'est bien. Il ne faut pas être plus.
Mm-hmm. Pour pouvoir s'échanger.
Tout à fait.
En profondeur. Oui. Parce que ça semble assez profond dans l'échange aussi.
Oui.
C'est aussi assez intime hein, quand je...
Ah oui.
En quelques mots, je dévoile quand même pas mal de choses de moi.
Oui, mais c'est pour cela que, comme dans tous les ateliers d'écriture, pour ceux qui en auraient fait... Généralement, la personne qui anime dit toujours ce que vous entendez là, eh bien, vous l'oubliez quand vous sortez. Ou, voilà, parce que justement, cette part d'intime se révèle quand même. Hein.
On a parlé avant d'ouvrir les micros, Michel Gigon. Vous faites cette année pour la première fois, vous animez ces ateliers pour la première fois. Ils existent depuis déjà 4 ans.
C'est la quatrième année, oui.
Oui, avant c'était Monique Lepage qu'on a entendue dans le premier volet de l'émission qui les animait.
Avec toutes les deux, oui.
Et qu'est-ce que vous a... Pourquoi voulez-vous animer ces ateliers? Qu'est-ce qui vous tient à cœur?
Eh bien parce que j'aime bien, la nature, je suis une randonneuse, alors là j'ai des sources d'inspiration. Et puis je trouve que ça apporte quand même une certaine sérénité. Ça permet de se poser, d'ailleurs il faut se poser pour un peu observer. Hein. Et moi je trouve que ça me nourrit.
Ça me nourrit comment?
Eh bien, en m'apportant quand même, je reviens au mot sérénité, peut-être, oui.
Est-ce que c'est un exercice apaisant?
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Oui, c'est très apaisant. Mm-hmm. Ouais.
Peut-être que ça peut être intéressant, justement, en ce moment de crise.
Tout à fait.
Où on est angoissé, peut-être, ou stressé par une nouvelle organisation de la vie, parce qu'on est coupé des autres, la nature, elle est toujours là. Mmh. Et si quelqu'un voudrait essayer apprendre à écrire de cette façon-là, quels sont les premiers pas? Vous dites que les personnes qui arrivent à l'atelier présentent déjà leur haïku, mais si j'en ai jamais fait, comment est-ce que je m'y mets?
Et mais ça arrive plusieurs fois l'année. Alors quand c'est en début d'année, c'est mieux, évidemment. Mais sinon, bon, généralement, on échange un peu par téléphone, hein, c'est ce qu'on fait. Et on invite la personne à venir à un premier atelier d'observation, en observateur, voilà. Et là, elle va voir comment on travaille. On va lui redonner quelques règles. On va prendre 5-10 minutes pour rappeler les règles de base, la forme classique du haïku. Et puis après, bon, elle va voir comment on procède. Et puis, généralement, la personne revient.
Et comment est-ce que vous écrivez ça? C'est des poèmes qu'on écrit à la main ou qu'on tape à l'ordinateur? Est-ce qu'il y a aussi des dessins?
Il y a des personnes qui sont auteurs et qui travaillent en coopération avec des personnes qui font de la calligraphie. C'est souvent traduit en calligraphie. Voilà. Là, je crois qu'il y a toute une.
Mais il n'y a pas d'illustration, par exemple.
Ben, en tant que tel, non, puisque c'est quand même beaucoup un ressenti.
Oui. Et vous avez mentionné le mot spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel là-dedans? Qu'est-ce que vous diriez?
Je crois que pour un croyant, un chrétien, il a pris le temps d'écrire 3 lignes sur un instant dans la nature, un instant éphémère dans la nature. Je pense que ça peut être aussi une façon de louer la création. Enfin, moi, personnellement, c'est un peu comme ça que je le vois, par rapport aux chrétiens.
Donc, dans ces poèmes, c'est aussi un peu une recherche de la beauté.
Oui.
C'est plus pour décrire le beau autour de nous que, par exemple, ou est-ce qu'il y a aussi des haïkus qui décrivent une souffrance?
Oui.
Ça existe aussi.
Oui, nous en avons fait un sur la paix, parce que... La paix suit souvent la souffrance, malheureusement, au mois de janvier dernier. Et ça a été fructueux.
Donc ça touche un peu à tout ce qui touche l'homme, qui nous touche dans notre profondeur.
Voilà. Et si je fais référence à ce que je disais tout à l'heure, dans les tranchées, tous ces jeunes hommes, en fait, en quelques vers, retranscrivait la tragédie qui se passait sous leurs yeux.
Je suppose qu'en ce moment, les ateliers sont suspendus.
Eh bien voilà, on devait redémarrer le 12.
Oui.
Donc, on va voir.
On va voir par la suite. En tout cas, s'il y a des personnes qui s'intéressent à ces ateliers haïku, Michel Gigan, vous êtes après disponible, après le confinement, ça va reprendre, je suppose.
Oui.
Et on peut vous contacter en appelant la maison diocésaine?
À la bibliothèque, et la personne qui est responsable de la bibliothèque me fera suivre.
Gabriel Bruck, on a entendu dans le premier volet de notre émission.
Voilà.
Très bien. Et c'est encore possible de se joindre à votre groupe?
Tout à fait.
Merci beaucoup, Michel.
Je vous en prie.
Maintenant, nous allons nous tourner vers la littérature. C'est aussi un atelier qui existe déjà depuis 5 ans. Nicole Villeroux, bonjour encore une fois.
Bonjour.
Alors, vous m'avez dit que dans un premier temps, vous avez créé cet atelier parce que vous aviez envie de faire connaître des auteurs qui vous ont touché, qui vous ont plu.
Oui, tout à fait. Et puis transmettre.
Oui.
C'est parce que pour moi, c'est un maître mot, la transmission. dans la mesure où on se rend compte aujourd'hui qu'il y a d'une façon générale un déficit de transmission. Donc il y a des auteurs dont on n'entend plus du tout parler, qui sont passés au purgatoire des écrivains, qu'il est bon de faire ressortir, et puis d'autres qui sont toujours très, très connus, mais c'est très ouvert. Mais mon but premier, oui, c'est de faire connaître, d'échanger sur la littérature.
Et vos ateliers se déroulent comment ?
Eh bien, ça se tenait dans un premier temps dans le local même de la bibliothèque diocésaine. Et puis, il y a eu de plus en plus de monde. Et là, maintenant, avec le confinement avant la fermeture, c'était dans une salle de conférence où on respectait les distances. Et donc, je présente l'auteur. Ce n'est pas une conférence du tout, hein. C'est vraiment une causerie, si vous voulez, hein. Et ensuite, je laisse la parole aux personnes qui m'ont écoutée pour me poser des questions, pour intervenir, etc. C'est un échange. Il y a une partie un peu où je parle, puis après une partie d'échange. Et c'est ça qui est passionnant.
Vous m'avez dit, que vous ne cherchez pas forcément des auteurs qui transmettent des valeurs chrétiennes ou qui sont des chrétiens. Mais vous avez changé un peu la marche à suivre. Maintenant, ce ne sont plus que des auteurs que vous voulez présenter, mais vous choisissez un thème. Et cette année, il y a quand même la notion de pèlerin.
Oui.
Donc, il y a un petit côté...
tout le monde est un pèlerin.
Oui. Hein? Peut-être vous pouvez nous dire déjà le titre de cette année.
Cette année, c'est... Écrivains pèlerins de la planète. Mm-hmm. Donc, ce sont des écrivains se sont beaucoup déplacés. Mm-hmm. Alors, ce ne sont pas des écrivains voyageurs au sens où on l'entend aujourd'hui.
Hein. C'est-à-dire, pas comment est-ce qu'on l'entend aujourd'hui ?
Eh bien, vous avez des gens qui font profession de voyager et d'écrire.
D'accord. Hein.
Là, c'est pas le cas. Ce sont des gens qui ont voyagé pour X raisons ou. Et qui ont écrit ou qui ont eu des vies qui se sont passées entre deux ou trois pays. Mm-hmm. Et donc qui ont écrit leur expérience. Ce ne sont pas forcément des récits de voyage. Ce sont des voyages intérieurs. Par exemple, hier, je parlais de Blaise Cendrars, qui est quelqu'un qui s'est beaucoup déplacé pour X raisons, mais qui a aussi beaucoup voyagé en imagination. Donc ce sont aussi des expériences intérieures. Par exemple, Isabelle Eberhardt, qui est une jeune russe née en Suisse, qui va partir très jeune au Maghreb, qui va se convertir à l'islam et qui va raconter ses expériences et malheureusement qui mourra dans une catastrophe naturelle. Alors il y a des gens très différents. Je vais du 19e au 21e siècle parce que, alors ça c'est une constante dans toutes mes rencontres, enfin mes années, je progresse chronologiquement parce qu'il y a aussi une évolution qui est liée à des techniques, enfin beaucoup de choses. Et cette année, je termine avec Sylvain Tesson, qui est un exemple d'écrivain voyageur, par exemple. Mais avant, il y a eu Alexandra Davinel, Joseph Conrad, Albert, Jack London, Isabelle Eberhardt, Paul Morand. C'est des gens excessivement différents, hein, mais qui ont nourri leur œuvre de la planète, de leur voyage. Alors, chacun voyage différemment pour X raisons, mais ils se sont déplacés, disons. Voilà. Et l'année dernière, c'était l'Orient dans la littérature française. Même chose, je partais de la première traduction des Mille et une nuits et j'allais jusqu'au prix Goncourt 2015, Mathias Sénard, pour montrer comment l'Orient avait inspiré pendant 2-3 siècles la littérature française. Je me suis cantonnée à la littérature française parce que sinon on en avait pour 10 ans.
Nicole Villeroux, vous avez fait des études littéraires ou comment
non.
Ça se fait que vous avez ces connaissances ?
J'ai un bac littéraire, mais je lis couramment depuis l'âge de 5 ans et depuis l'âge de 5 ans, je suis plongée dans les livres. Mm-hmm. J'aime la lecture. Pour moi, c'est aussi indispensable que le pain. Je dis toujours, on peut me priver de liberté, mais pas de lecture. Mm-hmm. Ça, c'est... Et j'ai une passion vraiment pour la littérature, pour l'histoire aussi, mais la littérature. Et donc, avec la retraite, j'ai eu envie de faire partager.
Et dans vos échanges avec les personnes qui sont présentes, qu'est-ce qui ressort? C'est de quel ordre ces échanges? C'est plus personnel, comment les gens ont ressenti, découvert, aimé? Oui. Ou c'est plus intellectuel?
C'est très divers. Il y a autant d'interventions que de participants. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'au fil des années, alors il y a des gens très fidèles, puis il y a des nouveaux qui arrivent. Et on a créé une espèce de communauté. Et c'est très sympathique de se retrouver chaque mois. Et on échange. Alors, les échanges sont très divers. Et c'est ça qui est très riche aussi. Les questions sont très diverses. Mm-hmm. Personne ne s'intéresse de la même manière à la même chose. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est forcer de répondre, de trouver la bonne réponse, de nourrir l'échange. Vraiment, c'est ça qui est intéressant. Pour moi, ça a toujours été important de partager. Et ça, c'est une façon de partager.
Et c'est une chance de pouvoir le faire parce qu'il y a, par exemple, à l'école, on souffre souvent de cette manque d'échange. Hein, quand on a français, littérature, on parle, mais on apprend, on travaille en écoutant. Mais il y a souvent peu l'occasion de s'échanger. Aussi bien sur tout ce qui peut nous toucher dans la littérature, dans la poésie. Je trouve que c'est une belle initiative de pouvoir permettre aux gens, en toute simplicité, sans avoir peur d'être ridicule quand on pose une question. Parce que parfois, quand on a des échanges comme ça, c'est très intellectuel et tout le monde n'ose pas participer. Mmh. Donc si au sein de la bibliothèque diocésaine, chacun déjà puisse s'exprimer, poser des questions et s'épanouir de cette façon-là, c'est déjà un aspect très positif de la mission de cette maison diocésaine aussi. Et vous avez combien de personnes qui viennent?
Une trentaine. Maintenant, une trentaine, oui.
Et c'est quand même possible de s'échanger dans des grands groupes comme ça?
Ah oui, parce que tout le monde ne parle pas, donc malgré tout... Oui, c'est tout à fait possible. Et puis, on clôture l'année avec un petit voyage littéraire.
C'est-à-dire?
On va se promener. Par exemple, on est allé une année à Avranches, au Scriptorium, pour voir donc ce musée consacré aux manuscrits du Mont-Saint-Michel et à l'écriture au Moyen-Âge. L'année d'après, on est allé à Fougères, on a évoqué Balzac à travers Fougères, et puis après, on est allé à Combourg pour Chateaubriand, par exemple. L'année dernière, on devait faire un voyage dans le Val-de-Loire, chez Balzac à Saché, et avant, on serait passé au château de Lillette, où ont vécu Rodin et Camille Claudel. Mais bon, le Covid nous a empêché ce beau voyage. Mais voilà, c'est aussi une façon d'abord de... Alors, viens qui veut. Hein. C'est une façon de souder aussi, d'avoir d'autres échanges avec les participants. Voilà, c'est très, très vivant. Mais je fais aussi la même chose, mais pas mensuellement, une ou deux fois par an, la bibliothèque municipale dans le cadre des Amis de la bibliothèque.
D'accord. Et pour revenir à l'atelier, normalement, je suppose que là, c'est suspendu aussi pour l'instant.
Alors là, j'ai trouvé un biais. Parce que l'année dernière, je me suis retrouvée avec les dernières conférences préparées et non données à cause du Covid. Donc cette année, je les donne à Radio Fidélité. C'est-à-dire que lundi, j'ai enregistré, elle a été diffusée hier, celle consacrée à Blaise Cendrars. Et donc, je vais faire ça jusqu'à ce qu'on puisse reprendre... Nos rencontres corps présent, comme on dit dans la justice, ou en présentiel, comme on dit maintenant. Je vais enregistrer pour donner cet été tout le programme de l'année dernière.
C'est-à-dire
l'Orient dans la littérature. Donc les trois dernières que je n'ai pas pu donner, je vais les enregistrer.
Très bien. Et si les ateliers reprennent, c'est quel moment dans la semaine ou dans le
Alors,
mois?
Alors moi, c'est le premier mardi du mois de 14h30 à 15h30.
Malheureusement, notre émission touche déjà à sa fin, mais je pense que ça a pu donner une bonne idée aux auditeurs de quoi il s'agit. Je vous remercie beaucoup d'être venu malgré les circonstances difficiles dans nos studios et on espère pouvoir relancer, reprendre ces beaux ateliers vraiment au plus tard dans un mois. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.